France Inter, franceinter.com.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Einstein. Mille ans d'histoire. Qui aurait pu imaginer qu'en 1905, en écrivant sur un bout de papier E égale MC2, un obscur employé du bureau des brevets de Berne deviendrait un jour le savant le plus célèbre du monde ? Moi, on m'acclame parce que tout le monde me comprend, disait un jour Charlie Chaplin à Einstein. Vous, on vous acclame parce que personne ne vous comprend. Mais si très peu de gens étaient capables de comprendre la relativité, cette fameuse équation par laquelle Einstein avait établi qu'un peu de matière pouvait libérer une énorme quantité d'énergie, tout le monde savait qu'avec elle, il avait bouleversé l'histoire de la physique et celle du XXe siècle. Pour le meilleur et pour le pire, puisqu'il avait ouvert la voie à l'invention de la bombe atomique. Mais il fut aussi le premier à en dénoncer les dangers jusqu'à la fin de sa vie, le 18 avril 1955.
Albert Einstein, dont on dira qu'il fut le plus grand savant de notre époque, vient de mourir à 76 ans aux États-Unis, où il s'était installé voici 25 ans. C'était un homme déjà universellement célèbre qui était arrivé en 1930, abandonnant Berlin, d'où la menace du nazisme naissant l'éloignait avant de le bannir définitivement. À 26 ans, n'avait-il pas révolutionné le monde avec sa théorie de la relativité ? Ne devait-il pas être à l'origine de la science atomique ? Et cette voix qui prononçait voici 25 ans son adieu à l'Allemagne demeure, maintenant qu'elle s'est tue, infiniment émouvante.
Die mir hier von allen Menschen zuteil wurde, kannte keine Grenzen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Einstein est mort, il demeurera dans les mémoires comme l'égal des plus grands esprits.
Laurent Lemire, bonjour.
Bonjour.
Vous le rappelez dans un livre qui vient de sortir chez Perrin, Le siècle d'Albert Einstein. Jamais sans doute de son vivant, un savant n'a été aussi célèbre ni aussi populaire que lui. Et cela grâce à une formule qu'aujourd'hui encore, peu de gens sont capables de comprendre. E égale MC2. C'est plus d'ailleurs qu'une équation, dites-vous, c'est la signature du XXe siècle.
Oui, parce que c'est l'équation la plus célèbre de toute la physique. Tout le monde la connaît, même si effectivement tout le monde ne la comprend pas. Et derrière cette équation, il y a l'idée que la science renferme quelque chose de merveilleux, de fantastique, de mystérieux. Cette possibilité de dégager une énergie incommensurable. Et derrière ça, il y a aussi l'autre face de la science, c'est-à-dire la destruction. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à la fois la science peut être généreuse, apporter du bien à l'humanité, mais aussi détruire la civilisation.
Alors cet homme qui a bouleversé la science, qui a été le premier scientific people, hein, dites-vous, de l'histoire, dernier d'ailleurs peut-être aussi, nous y reviendrons, il est né à Ulm, en Allemagne, en 1879, et rien ne le prédisposait à devenir le grand scientifique qu'il est devenu. Vous dites même, Laurent Lemire, qu'il n'a pas parlé avant l'âge de 7 ans.
Oui, on a même parlé à son propos d'un certain autisme. Il faut rappeler qu'il est dans une famille où, malgré tout, on est dans la technologie, dans l'invention, les parents d'une petite entreprise électrochimique. Donc, on est quand même dans à la frontière de la science. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très mutique, qui ne dit rien.
N'aime pas l'école, pas sa discipline.
Il n'aime pas l'école, il ne dit rien, il observe beaucoup. Alors ça sera un de ses grands talents, c'est d'observer ce qui l'entoure. Et effectivement, à l'âge de 5 ans, ce garçon qui ne dit rien est fasciné par une boussole qu'on lui offre. Et il se pose une question, pourquoi l'aiguille donne toujours la même direction. Donc on a déjà cette volonté de comprendre ce qui se passe. Et ça, on appelle ça le premier miracle. Et à 12 ans, deuxième miracle, ce garçon qui ne dit rien a un précepteur et il se met à lire Euclide, les éléments d'Euclide, c'est-à-dire il entre dans la géométrie à l'âge de 12 ans.
Alors, cela dit, il fait des études assez moyennes et puis il tient absolument à entrer dans une grande école en Suisse. C'est le Polytechnicum de Zurich. Il échoue une première fois et puis finalement, il réussit à y entrer, Laurent Lemire.
Oui, parce que le Polytechnicum de Zurich est un établissement, ça serait un peu comme notre école polytechnique en France, un peu particulière, où justement on a un enseignement de très grande qualité, mais une discipline assez lâche, on va dire. Et ça convient très bien au personnage d'Einstein, qui refuse toute discipline. D'ailleurs, il y a des scènes, quand il était jeune, il balance à un moment donné une chaise à son institutrice, à la face de son institutrice, parce qu'il ne supporte pas l'autorité, aussi bien du côté militaire que pour l'éducation.
Alors, il sort de ce Polytechnicum de Zurich, puis trouve un emploi, ou des emplois modèles, je crois qu'il est précepteur au début. Et puis alors, il trouve un emploi comme expert technique de troisième classe au bureau des brevets de Berne. Et c'est là qu'à 26 ans, en 1905, eh bien, il découvre la relativité. Et puis alors, cette formule, E égale MC2, qui allait bouleverser l'histoire de la physique et dont Einstein s'expliquait lui-même, dont il expliquait lui-même l'importance, beaucoup plus tard, en 1948.
It follows from the special theory of relativity.
Il a découlé de la théorie de la relativité que la masse et l'énergie sont deux manifestations de la même chose, une conception peu familière pour la moyenne des gens. En outre, l'équation E égale mc2, selon laquelle l'énergie est égale à la masse, multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, a prouvé qu'un peu de matière peut être convertie en très grande quantité d'énergie et inversement.
Un peu de matière peut être convertie en une très grande quantité d'énergie. Ça, c'est le principe même des bombes atomiques et des centrales nucléaires, Laurent Lemire. Et il découvre ça à 26 ans avec un crayon et un bout de papier.
Oui, il a 26 ans, il est seul, il a un crayon, un bout de papier, il révolutionne la physique parce que il y a effectivement E égale MC2, la relativité générale. Un peu plus tard, il découvre aussi l'effet photoélectrique, il analyse le mouvement brownien des particules et il reprend les théories de Max Planck qui a découvert les quantas. Donc il s'intéresse à la mécanique quantique.
C'est des atomes de lumière.
Voilà, des atomes de lumière. Voilà. Donc tout ça dans la même année à 26 ans.
L'année du miracle.
L'année du miracle, absolument. Mais lui n'avait pas, dans un premier temps, envisagé la fabrication d'une bombe. C'est-à-dire que cette équation, effectivement, explique qu'on peut libérer une énergie incroyable, incommensurable, à partir d'une toute petite quantité de matière, à condition que cette matière soit fissible, c'est-à-dire que ça marche pour le plutonium, l'uranium, mais pas pour le plomb.
Alors ça, ce sont des travaux qui sont publiés dans une revue, à laquelle d'ailleurs et auquel personne n'attache une grande importance. Au début, personne ne mesure l'importance des découvertes d'Einstein, Laurent Lemire.
Non, grande revue scientifique qui est quand même l'équivalent de ce que pourraient être les comptes rendus de l'Académie des sciences. Donc à 26 ans, pouvoir publier dans les Annalen der Physik, c'est quand même important. Mais personne n'y attache vraiment d'importance parce que personne ne les comprend.
Alors s'il y a quand même quelqu'un qui est justement l'inventeur ou le père de la théorie des quantas, hein, c'est-à-dire de ces atomes de lumière, qui est Max Planck et qui dit « Si, comme je l'attends, la théorie d'Einstein est confirmée, on le tiendra pour le Copernic du XXe siècle. » Car effectivement, tout ça, tout ce que découvre Einstein, c'est de la théorie, c'est pas encore de la pratique. Mais justement, on va valider, on va prouver les découvertes d'Einstein.
C'est là justement où, à mon sens, c'est l'un des grands créateurs du XXe siècle, mais un créateur scientifique. Et la différence entre le créateur scientifique et le créateur artistique, c'est que le scientifique a besoin d'une validation par l'expérience. Et Einstein, dans son petit bureau à Berne, réinvente la physique et tout ça va être validé par des expériences, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale. Et alors, à ce moment-là, une fois que toutes ses théories, toute son architecture sera validée, il va devenir mondialement célèbre. Mmh. C'est là, à ce moment-là qu'il devient une star.
Il devient une star, il devient professeur à la très célèbre université de Berlin, à ce moment-là.
C'est le haut lieu de la physique.
Le haut lieu de la physique. Et puis, alors, célèbre dans le monde entier, il est aussi pour ses engagements et ses convictions, et qu'il exprime dans ce discours, le plus vieil enregistrement de la voix d'Einstein, c'est en 1932.
Ich achte stets das Individuum
Mon aspiration à une justice sociale m'a souvent mise en conflit avec la société. C'est pourquoi je suis pacifiste et antimilitariste. Je refuse tout nationalisme. Je me préoccupe de l'idéal de la démocratie, bien que je sois conscient des insuffisances de ce régime. La plus belle chose que puisse exprimer l'homme, c'est le sentiment de la plénitude intérieure. L'aspiration à la beauté représente pour moi la religiosité. Et dans cette acception, je suis religieux.
Alors la religion d'Einstein, vous l'écrivez, Laurent Lemire, c'était une religion solitaire. Einstein était juif, mais pas du tout pratiquant, et cette religion, il ne va pas la pratiquer ni dans les synagogues, ni dans les églises.
Non, d'ailleurs, quand il était jeune, il a été élevé dans une école catholique. Ça, c'était la volonté d'insertion de sa famille dans cette Allemagne qui bougeait pas mal. Mais lui, effectivement, redécouvrira, le judaïsme dans les années 20, mais ce ne sera jamais un religieux. Alors certains ont dit que vers la fin de sa vie, il était un peu mystique. Alors peut-être qu'on peut considérer qu'il avait ce petit côté mystique, mais on peut le définir comme un agnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nie pas du tout... on va dire une sorte de transcendance.
D'esprit supérieur, infiniment supérieur, et qui serait au-delà de toutes les connaissances que pourrait avoir un scientifique.
Absolument. D'ailleurs, dans ses interviews, dans ses travaux, il appelle Dieu le vieux. Voilà, donc c'est lui l'architecte de l'univers. Et au fond, tout son travail consiste à comprendre comment le vieux s'y est pris. Pour que cet univers fonctionne et fonctionne aussi harmonieusement.
Alors, il est également très antimilitariste. Hein, ça découle peut-être de son aversion pour la discipline scolaire quand il était jeune. La vue d'un uniforme le rendait fou.
D'un uniforme, aussi bien à l'école que lors de défilés. C'est quelqu'un qui ne supportait pas l'embrigadement. Il comprenait même pas qu'on puisse être militaire. Il y avait un petit côté anarchiste chez lui. C'est un rebelle. Et c'est peut-être aussi parce qu'il est rebelle et qu'il a voulu casser d'une certaine manière la tradition, et y compris la tradition de la physique classique, qu'il est arrivé à créer toute cette théorie.
Pacifiste également, et attaché, on l'a entendu, c'était en 1932 ce qu'on a entendu, à la démocratie. Alors ça peut paraître assez banal aujourd'hui, mais ça l'était moins, parce qu'en 1932, lui qui travaillait à l'université de Berlin, 1932 c'était la veille de l'arrivée au pouvoir de Hitler, Laurent Lemire.
Oui, il était très conscient de ce qui se passait en Allemagne. Il a été, lui, victime de l'antisémitisme montant en Allemagne. On a beaucoup dit aussi pour critiquer, y compris d'ailleurs de la part de physiciens allemands, de grands physiciens allemands qui ont eu aussi le prix Nobel, comme Lennart, que la théorie de la relativité, c'était de la physique juive. Et ça, c'était pour mépriser, dire tout ça, c'est une invention d'un seul gars, c'est absolument pas possible. Donc il a été victime de cela. Et il a toujours soutenu la République de Weimar, pensant qu'effectivement c'était un moyen pour l'Allemagne, après la défaite de la Première Guerre mondiale, de s'en sortir. Il a très bien vu ce qui allait se passer, la montée de cette folie meurtrière, de ce racisme, et la montée au pouvoir d'Hitler. Et c'est pour ça qu'il est parti en 1933.
En 1933, il connaissait déjà les États-Unis, s'était rendu à plusieurs
bien
reprises
sûr, comme il
pour
était
des
très
conférences.
Célèbre.
Mais il quitte définitivement l'université de Berlin, il démissionne justement, il va s'installer à Princeton. D'ailleurs, beaucoup de savants juifs qui travaillaient en Allemagne ont été chassés ainsi, en tout cas sont partis, parce qu'on les accusait de faire de la physique juive. Et c'est ainsi d'ailleurs que beaucoup d'entre eux, je pense à Léo Szilard,
absolument,
qui était un savant hongrois, ou encore à Édouard Teller, qui sera le futur père de la bombe H. Tous ces gens-là étaient en Allemagne et vont quitter l'Allemagne pour aller aux États-Unis. Et c'est là qu'ils mettront au point la bombe atomique. Alors, pacifiste, antimilitariste, très attaché aussi, vous le rappelez, Laurent Lemire, à son indépendance. Einstein écrivait même à sa femme quelque chose qui le rend moins sympathique. C'est un aspect du personnage qui m'a surpris en lisant votre livre. On y découvre justement une espèce de convention qu'il avait écrite pour sa femme, pour sa première femme, au moment où il y avait une crise avec, dans leur mariage. Et voilà ce qu'il écrivait. « Vous veillerez à ce que mon linge et mes draps soient tenus en ordre, qu'il me soit servi 3 repas par jour dans mon bureau, que ma chambre et mon bureau soient toujours bien tenus et ma table de travail ne soit touchée par nul autre que moi. Vous renoncerez à toute relation personnelle avec moi, excepté celle nécessaire à l'apparence sociale. » En particulier, vous ne réclamerez pas que je m'assoie avec vous à la maison, que je sorte ou voyage en votre compagnie. Vous promettrez explicitement d'observer les points suivants. Vous n'attendrez de moi aucune affection et vous ne me le reprocherez pas. Vous me répondrez immédiatement lorsque je vous adresserai la parole. Vous quitterez ma chambre ou mon bureau immédiatement et sans protester lorsque je vous le demanderai. » Voilà ce qu'il disait à sa femme à la fin des années 10. C'est extraordinaire, on découvre un macho.
Oui, on peut appeler ça vraiment de la misogynie. Autant le personnage était génial sur le plan scientifique et généreux sur le plan politique, puisqu'il a profité de sa notoriété pour défendre ses idées, son pacifisme. Sur le plan privé, c'était assez épouvantable. C'était quelqu'un de narcissique, qui ne s'intéressait effectivement qu'à lui, à ses travaux, et il ne supportait pas en plus sa femme, avec qui il ne s'entendait plus. Ça, ce que vous citez, c'est juste au moment, c'est avant le divorce.
Oui, sa première femme, oui. Mmh. Mais alors, oui, on dit même d'ailleurs, on sait que l'enfant qu'il avait eu hors mariage avant de l'épouser avec cette première femme, eh bien que qui s'appelait Mileva Marić, je crois, cet enfant a disparu. On n'a jamais su ce qu'il était devenu.
La petite Liz Earl, qui effectivement a disparu, on peut supposer qu'elle a été abandonnée. Et qu'elle est morte vers 2-3 ans. Mais il a eu des soucis avec aussi son fils, Édouard, qui, lui, a fini schizophrène et est mort en 1965 dans un asile à Zurich.
Alors ça, on ne connaît pas cet aspect du personnage, on connaît plus le scientifique, le violoniste aussi, il était passionné par la musique, ou encore l'homme paisible que Léo Szilard avait découvert aux États-Unis en train de pêcher en 1939. Léo Szilard qui avait donc fui le nazisme en Europe et qui venait trouver Einstein à Princeton pour lui demander de signer une lettre demandant au président des États-Unis de financer le programme qui allait permettre la fabrication de la première bombe atomique.
Excusez-moi, nous cherchons Einstein. Il habite pas ici.
Ah non, je regrette.
Comment il est?
Comme le bon Dieu.
Le vieux pêcheur? Ah, il est là-bas.
Oh, mon cher Léo, ça fait si longtemps. Dans l'uranium jusqu'au cou, à ce qu'il paraît.
La bombe atomique est inévitable. La question est, qui l'aura le premier? Hitler va exterminer tous les Juifs. Il veut dominer le monde. On va rester assis dans notre tour d'ivoire jusqu'à ce qu'il ait les moyens de le faire.
J'ai abandonné le jardinage quand j'ai constaté que je coupais des vers de terre en deux.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alerter Roosevelt. Lui demander de lancer un programme atomique. Avec une lettre signée de votre main, Albert. Alors il la lira. On doit choisir, Albert. Une bombe américaine ou une bombe nazie.
Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm passé il y a quelques années qui s'appelait « La course à la bombe » de Jean-François Delassus. Alors donc, il y a cette lettre que Einstein va effectivement signer. Il ne l'a pas rédigée, c'est vraisemblablement Léo Szilard qui l'a rédigée. Le 2 août 1939, on est à la veille de la guerre. Les États-Unis n'y sont pas entrés, mais cette lettre va avoir de l'effet. Autrement dit, Einstein a imaginé l'équation qui allait donner bien plus tard, par la fission de l'uranium, la première bombe A, mais il n'a pas participé aux travaux, mais il a encouragé le président des États-Unis, grâce à son prestige, à lancer ce fameux programme de Los Alamos, à laquelle il ne participera pas, Laurent Lemire. On a dit qu'Einstein est à l'origine de la bombe, il faut nuancer.
Non, il n'est pas à l'origine de la bombe. Il est celui qui va alerter, effectivement, le président Roosevelt, que cette bombe peut être fabriquée par les Allemands, parce que si effectivement une grande partie des physiciens ont immigré aux États-Unis, certains, et non des moindres comme Heisenberg, sont restés en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, et ont la possibilité, tout au moins intellectuelle, ils peuvent comprendre aussi comment ça fonctionne et peut-être mettre au point cette fameuse bombe. C'est un peu le rôle de l'intervention de Szilard. Et donc Einstein avertit Roosevelt de cette possibilité. Donc il n'est pas à l'origine de la bombe de la création, mais il est à l'origine, quelque part, du projet Manhattan. Mmh.
Qui donnera la bombe. Alors cela dit, si il ne participe pas à ce projet, vous le rappelez, Laurent Lemire, c'est peut-être parce qu'aux États-Unis, on se méfie de lui.
on se méfie de lui depuis ses premiers voyages, parce qu'on le considère comme un pacifiste, donc pacifiste un peu proche du communisme, tout ça n'est pas très loin, le FBI le traque, le poursuit, et jusqu'à la fin de ses jours, il sera épié, on fouillera ses poubelles, on essaiera d'intercepter sa correspondance, et aujourd'hui, on a le dossier Einstein, le dossier du FBI qui a été déclassé, et ça fait à peu près 5 000 pages. C'est gigantesque. Donc, depuis les années 20, à la fin des années 20, effectivement, au moment de la guerre, il est déjà sérieusement épié par le FBI.
Et pendant la guerre, il est effrayé. Hein, il apprend l'explosion de la bombe d'Hiroshima, puis de Nagasaki. Plus tard, il sera également effrayé par quelque chose d'encore plus puissant, c'est la bombe H que les Américains vont expérimenter à Bikini. Pour lui, c'est abominable.
Oui, il se rend compte du désastre assez vite, parce que quand en 1939, effectivement, il avertit Roosevelt qu'il faudrait faire cette bombe avant que les nazis ne la fassent et ne puissent détruire toute civilisation, en 1945, il envoie une deuxième lettre que Roosevelt ne recevra pas parce qu'entre-temps, il mourra. Ce sera Truman qui sera président des États-Unis pour l'inciter à ne pas utiliser cette bombe. C'est-à-dire, il sent bien qu'après le projet Manhattan est lancé et qu'il va se passer quelque chose de dramatique, effectivement, c'est Hiroshima et Nagasaki. Et comme vous le dites, après, en 1952, la première bombe H. Donc, il est conscient que... qu'il est non pas à l'origine, mais qu'il a un devoir moral d'alerter le monde du danger de la science.
Et c'est ce qu'il fait en
1946. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons créer des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité des peuples et de leurs chefs d'État. Ces institutions doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et d'autres armes. Cela est difficile, mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre un million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant. Sinon, la société humaine disparaîtra, peut-être à jamais, dans un nouvel âge d'obscurantisme.
Preach y'all a sermon about old man Adam, that's me. I don't mean the Adam in the Bible, Adam. I don't mean the Adam that Mother Eve elated. I mean the thing that science liberated. The thing that Einstein says he's scared of. And when Einstein's scared, brother, you'd better be scared. So listen, folks, here is my thesis. Peace in the world or the world in pieces.
Hiroshima.
Einstein a peur, et quand Einstein a peur, tu as intérêt à avoir peur aussi. C'était une chanson Old Man Atom, une chanson pacifiste de 1950, une chanson rare puisqu'on était à l'époque au début du macartisme contre lequel Einstein s'est également battu, hein, pas seulement contre la bombe, il a été vraiment victime du macartisme, vous le rappelez, Laurent Lemire. Autre combat d'Einstein également, celui qu'il a mené pour la création de l'État d'Israël, dont on lui a même proposé, dites-vous, la présidence en 1952.
Oui, il avait la conviction assez tôt que le sionisme était quelque chose auquel il devait adhérer, parce que ça bien avant la guerre, parce que la création d'un État israélien, d'un État juif, était indispensable. Donc il aura toujours été cohérent avec cela. Mais la manière dont les choses se sont un peu emmêlées justement 1948, et on lui a proposé en 1952 la présidence d'Israël, et il a refusé. Et il y a une phrase d'ailleurs de Ben Gourion qui dit: mais qu'est-ce qu'on fait s'il accepte? Parce que ce personnage était un peu rebelle, son côté pacifiste, et il avait expliqué que de toute façon la création de cet État ne pouvait pas se faire sans la population arabe.
Donc il a refusé. Il préférait d'ailleurs continuer ses recherches scientifiques pour découvrir rien que ça, une théorie générale expliquant l'ensemble des phénomènes physiques. Finalement, au fond, en une équation, tout le fonctionnement de l'univers, ce qu'il ne découvrira jamais, d'ailleurs ce que personne n'a réussi à découvrir depuis. Qu'est-ce qu'il a laissé sur le plan pratique, Laurent Lemire, Einstein? Parce que tout ce qu'il a fait, ce sont des théories. Sur le plan pratique?
Sur le plan pratique, il a eu le prix Nobel en 1921 pour ça. C'est la découverte de l'effet photoélectrique grâce auquel aujourd'hui on peut ouvrir à distance des portes de garage, donc déclencher des mécanismes à distance. Et malgré tout, la théorie de la relativité qui concerne l'univers, le cosmos, la manière dont les astres se déplacent, il y a une conséquence pratique à tout cela, c'est dans notre GPS. C'est-à-dire que le petit décalage entre ce qui se passe sur le satellite et ce qui se passe sur Terre, cette petite correction qu'apporte la relativité nous permet d'avoir une précision extrême qu'on n'aurait pas sans cela.
Et puis une autre façon de voir le monde tel qu'on le voyait avant. Vous le rappelez aussi, c'est peut-être ça qui fascine, c'est le dernier scientifique. Aujourd'hui, plus personne ne travaille comme Einstein. On est dans des laboratoires, on n'écrit plus, on ne travaille plus avec un crayon, un bout de papier.
Non, aujourd'hui, on travaille avec des télescopes, avec des accélérateurs de particules. Lui pense l'univers, pense le monde, pense la structure avec, effectivement, de son côté créateur, un bout de papier. Et son laboratoire, c'est son cerveau. Donc, ça, c'est le dernier grand scientifique, grand savant mondialement connu. Et aujourd'hui, on a plutôt des spécialistes qui essaient, encore aujourd'hui, de comprendre et de travailler sur cette théorie.
Merci, Laurent Lemire. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le siècle d'Albert Einstein, un livre qui vient de paraître aux éditions Perrin. À lire également, pour nos plus jeunes auditeurs, une courte biographie d'Einstein de Brigitte Labbé et Michel Puech, publiée aux éditions Milan Jeunesse. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1955, issue du journal de votre année, édité en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi qu'un extrait du téléfilm La course à la bombe de Jean-François Delassus et Alain Eastman. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphanie Coulon et Rémi Quincé, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 27 mai 1968, il y a 40 ans, les accords de Grenelle.